Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du Local, votre quotidienne sur l'autre radio tout l'été. Même pendant les vacances, on reste avec vous, on ne vous lâche pas. Et le mercredi, jour des enfants traditionnellement, ça peut être aussi jour des jeunes, les jeunes qui se bougent cet été avec les chantiers argent de poche proposés aux 16-18 ans par de nombreuses municipalités en Mayenne. Et si aujourd'hui le dispositif est très répandu, Ménil fait partie des premières communes à l'avoir mis en place il y a une quinzaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Pendant 15 jours, début juillet, ils étaient 6 à y participer avec entrain, accompagnés de bénévoles de la commune et d'élus référents. Reportage à la fin d'une matinée pluvieuse tout près de l'église de Ménil.
Alors moi c'est Mélinda Boutier, je suis adjointe à la mairie de Ménil et référente argent de poche. Le chantier là, c'est de peindre les portes et fenêtres du petit atelier à côté du camping. On fait de l'entretien sur la commune. On a 6 jeunes là cet été. Il y a une semaine à Pâques, 2 semaines l'été et 1 semaine à la Toussaint. Alors l'argent de poche, c'est des jeunes entre 16 et 18 ans qui peuvent participer à des chantiers sur la commune. Ils sont rémunérés 5 euros de l'heure et ils font 3 heures par jour. C'est eux qui s'inscrivent, on les inscrit, alors c'est souvent en mars, on constitue un dossier qu'ils viennent chercher, ils remplissent et ils mettent les dates auxquelles ils veulent participer. C'est un échange intergénérationnel déjà, puisqu'on a des bénévoles qui sont à la retraite, des bénévoles élus, des bénévoles qui ne sont pas à la retraite non plus. Et les jeunes, du coup, l'intérêt c'est de faire de l'échange. Ils apprennent à connaître les lieux sur la commune, parce que des fois on intervient sur le cimetière, on peut intervenir à la mairie, à l'école. C'est un échange déjà en priorité. Puis eux, ça leur fait un petit peu d'argent. Quand ils ne viennent pas, c'est qu'ils ont trouvé un autre travail. Et ce qui est plutôt bien.
Je suis Luca Demem, bénévole pour l'argent de poche. Qu'est-ce qui m'a motivé? Alors, parce que travaux manuels, je suis habitué avec ma famille à en faire très souvent. Et l'argent, pas un petit job, parce que à 16 ans, c'est compliqué d'en trouver un. Et l'argent de poche, c'est quelque chose de pas mal à faire. Franchement, c'est marrant à faire tous ensemble, etc. Et c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Une moto. J'économise, il me reste plus beaucoup d'argent à avoir et voilà. Travailler à plusieurs, c'est toujours mieux de travailler tout seul, ça c'est obligatoire. L'organisation aussi, c'est pas mal. Par rapport au partage des tâches, au planning et surtout à la ponctualité qu'on doit avoir le matin, etc. On commence à 8h30 et on termine à 11h30. Là, c'est que le matin, c'est que 3 heures, ce qui fait qu'on a le temps après d'avoir du temps pour nous pour le reste des vacances. La peinture, j'ai déjà fait, ponçage également, parce qu'on l'a fait. On a rempli le bac à sable de terre pour mettre de l'herbe ensuite. On a aussi désherbé tout un mur qui se délabrait. Donc ouais, franchement, c'est des trucs que je savais déjà faire moi personnellement, mais c'est sympa de les faire à plusieurs, c'est mieux de les faire seul. Et l'année prochaine, si c'est repris, je fais aussi.
Bonjour, moi c'est Cyprien Marcelier, j'ai 17 ans. Et c'est la première fois que je fais argent de poche. Déjà, le fait de pouvoir se faire son propre argent, que c'est un peu le premier métier qu'on peut faire avant de rentrer dans la vie active, et ça fait une première expérience professionnelle. J'avais déjà fait une semaine aux vacances de Pâques, et là du coup je refais les 2 semaines, et c'est une première expérience professionnelle. C'est un peu plus un cadre que ce qu'on peut avoir à l'école ou au lycée. Ça permet d'avoir un cadre, et c'est vraiment une première expérience professionnelle. Enfin, c'est des choses que pour certains ou qu'on apprend à faire, c'est la première fois qu'on les fait, et on nous fait quand même confiance malgré qu'on n'ait pas pu faire ça avant. Enfin, je trouve ça bien. Je me dis qu'il ne faut pas trop qu'on s'habitue à avoir des longues vacances sans rien faire, parce que de toute façon, il y a très peu de métiers après quand on est dans la vie active où on a 2 mois de vacances l'été. Donc d'un côté, ça permet de s'occuper aussi puis de se faire sa propre argent. Donc c'est pas désagréable. Pour mes études, je vais aller dans des écoles d'informatique et du coup, il y aura sans doute un logement, la voiture. C'est toujours utile d'avoir de l'argent de côté.
Bonjour, moi c'est Manon Leblanc, j'ai 16 ans et c'est la première année que je fais l'argent de poche. J'ai essayé de chercher plein de petits boulots, sauf que j'ai pas du tout trouvé, tout le monde m'a refusé. Du coup c'était un peu le seul moyen de travailler, puis c'est plaisant, c'est une bonne ambiance, moi j'aime bien. On rencontre des gens, enfin même si on les connaît déjà tous, on apprend à plus les connaître parce qu'on s'est perdu de vue. Après on apprend à travailler, à être plus autonome aussi. La peinture j'en faisais pas forcément toujours, le ponçage j'en avais jamais fait. Ça apprend déjà le minimum, la ponctualité, des choses comme ça. Oui. Moi, je voulais gagner de l'argent déjà l'été et du coup, c'était un peu le seul moyen. Donc forcément, c'est pas du tout une contrainte. Oui, on est fiers. On est fiers, on montre ça à nos parents, ils sont contents. Oui.
Alors ça, on appelle ça un carré.
Alors tu vas voir que c'est pas si facile.
Ouais, ça, c'est celui-là qui est là.
Je te conseille d'utiliser tes doigts pour l'instant.
D'accord.
Tu vas là? Oui, tu fais comme tu veux là. C'est pas compliqué, mais il faut que ça. Si tu tombes pas en face.
Alain, je suis jeune retraité et donc j'ai décidé de m'investir pour l'argent de poche. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Ça me permet de rencontrer les élus que je ne connaissais pas ou mal. Nous, on est là pour encadrer les jeunes, pour leur expliquer un petit peu la manière de faire, que le travail qui est effectué par nos jeunes soit le plus net possible. C'est enrichissant pour tout le monde, que ce soit pour nous, les anciens et les jeunes. Je pense que ça leur fait aussi plaisir d'avoir des gens de la commune qui se préoccupent de leurs vacances. Tout le monde s'investit et la vie communale, ça passe par les anciens, ça passe par les jeunes, ça passe par les élus.
Alain, je suis élu et donc j'encadre l'argent de poche avec Mélinda. Cette année, on a fait à Pâques restaurer le parc de jeux qui a derrière l'église, repeint les barrières. Les deux dernières années, on avait fait des bancs multicolores qu'on a installés le long de la Mayenne, qui sont très confortables, tous les retours sont très positifs. Et puis l'an dernier, on a aussi fait des bacs à fleurs qu'on a installés le long de la Mayenne pour que les bateaux, quand ils passent, voient qu'ils arrivent à Ménil. Le transformateur EDF qui se trouve sur la place de la mairie, qui a été peint l'an dernier à l'argent de poche, et c'est vraiment super. Et les jeunes sont très fiers d'avoir fait ça. Donc ils apprennent des choses extrêmement simples, rien que de poser des scotchs sur les verres pour peindre, pour protéger. C'est pas si simple que ça quand on ne l'a jamais fait. Puis même socialement, ils sont un peu timides en arrivant, et puis ils parlent de plus en plus, et ouais, ça permet d'avoir des contacts entre les générations.
Des contacts renforcés encore à la fin de la semaine lorsque chaque jeune apporte à tour de rôle un gâteau pour les bénévoles. La plupart des jeunes espèrent pouvoir y participer aux prochaines vacances de la Toussaint et les inscriptions pour l'été prochain se feront début 2023. Troisième épisode de notre feuilleton à Jublin, la cité antique du Nord-Mayenne et même capitale antique avec son musée sur place mais aussi, depuis 12 ans, son chantier de fouilles archéologiques qui accueille chaque été une équipe d'étudiants et d'archéologues amateurs chapeautés par des professionnels dont fait partie Anne Boquet pour le département de la Mayenne. Aujourd'hui, elle nous explique ce qui se passe après les 7 semaines de fouilles et ce que ça représente pour elle dans l'année.
C'est un moment extrêmement précieux et important pour moi. C'est un rendez-vous qui a été justement manqué en 2020 et 2021 et c'était un peu dur pour ça. Alors c'est un moment où on engrange des données scientifiques. C'est comme une moisson quoi. On récolte les données, on récolte des choses, on enregistre, etc. Et c'est aussi un moment de partage avec ces jeunes et moins jeunes. C'est un moment de convivialité, de bonne humeur, enfin voilà, il y a tout ça aussi. Et ensuite, c'est ce moment-là, on ne comprend pas tout. Quand on est sur le terrain, alors on comprend des choses, on note des relations, on dit alors la couche, elle vient contre le mur ou elle est sous le mur, nanana, nanana. Et ensuite, dans la phase postérieure, qui est la phase qu'on dit de post-fouille, et ben c'est là que les choses vont s'enchevêtrer. Donc on a aussi des méthodologies pour faire des diagrammes de couches, interroger le mobilier qu'on a trouvé. Et du coup, là des fois, il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres qu'on n'avait pas forcément compris sur le terrain et qui vont venir s'éclairer un peu mieux après la phase post-fouille. Mais c'est vraiment, on pourrait dire, une moisson d'informations qu'on vient prendre. On appelle ça l'enregistrement. Alors on enregistre les couches, donc la stratigraphie, donc là on a des fiches d'enregistrement où on note les relations, surtout on décrit, elle est verte, elle est brune, elle est gravillonneuse. Il y a les dessins, donc on fait sur du papier calque, millimétré, machin. Il y a les photographies. Et après, il y a tout ce qu'on appelle le mobilier archéologique, donc tous les objets qu'on va trouver, la céramique, les os, etc., qui sont recueillis avec le numéro de la couche dans laquelle ils ont été trouvés. D'accord ? Il faut tout nettoyer, laver, inventorier, et ensuite faire sécher tout ça, et confier les éléments aux spécialistes, aux différents spécialistes. Donc la céramique va être étudiée par un céramologue, les ossements par un archéozoologue, etc. Et ensuite, à nous, archéologues, de reprendre tous ces éléments qu'on va nous donner pour écrire un peu l'histoire du site. Un archéologue, il détruit son objet d'étude. Hein, c'est pas comme un archiviste qui conserve un parchemin. L'historien, il vient lire le parchemin, il le repose dans les archives, et l'historien de la génération suivante, il vient relire le même parchemin. Et s'il n'est pas d'accord, il dit pourquoi. Moi, une fois que j'aurai terminé ce chantier, il n'y aura plus grand-chose à voir. Donc plus personne ne pourra voir. Donc c'est en cela que l'enregistrement de toutes les données, il est primordial. Pour qu'on ait quand même une trace de ce qu'on a fait, de ce qu'on a enlevé. Et peut-être cet enregistrement permettra à d'autres de réinterroger les hypothèses qu'on a formulées. Parce que les preuves sont là. Les murs qui restent un petit peu en plus en élévation sont des murs qui appartiennent à un bâtiment postérieur dont il ne reste plus rien à part ces murs-là. Donc on avait ici un grand bâtiment résidentiel, probablement d'un statut social assez élevé, dont les murs portaient des enduits peints, donc des enduits décoratifs, hein, colorés. Certaines pièces que l'on ne voit plus aujourd'hui étaient chauffées par le sol. Donc on a un niveau d'équipement qui est assez élevé par rapport à la catégorie de la population. Donc on avait un bâtiment résidentiel ici qui se prolonge probablement sous nos pieds dans des zones qui ne sont pas décapées bien sûr. Hein. En revanche, dans la zone qui a été remblayée, on avait un bâtiment qu'on pense être un bâtiment public. Il y a beaucoup d'hypothèses encore aujourd'hui là-dessus, quel type de bâtiment public c'est, pourquoi, enfin donc voilà. Ça va être le travail ensuite justement, plus loin que le post-fouille, de la publication. C'est-à-dire une fois que la fouille elle sera terminée, les rapports sont rendus, etc. Il reste à la charge des archéologues de faire des publications, donc de là une synthèse de la fouille. On dépasse le stade des preuves et on va plus loin. Et là, on propose une hypothèse sur le site qu'on publie auprès des scientifiques et puis souvent qu'on publie de manière différente auprès du grand public. Ça peut être sous forme d'exposition, de catalogue d'expo, etc. Mais l'important, c'est de rendre compte de ce qu'on a fait. Ce site-là, il éclaire la ville de Jublin, mais il éclaire les villes antiques de l'Ouest et il éclaire les villes antiques de l'époque antique, en Gaule. Hein, il y a aussi ça, donc ça on doit le faire. Et puis après, il y a aussi la population locale, mayennaise, les visiteurs, etc., à qui aussi on se doit de rendre compte. Souvent, on demande aux archéologues quel est votre plus bel objet, quelle est la plus belle découverte, etc. Et j'ai souvent coutume de dire, c'est vrai qu'il y a le plaisir de la découverte de l'immédiateté, de l'objet immédiat qui est magnifique. Alors les objets en or, par exemple, sont des objets extrêmement rares, rarissimes. Et donc, on a eu la chance de découvrir ici une petite bague en or avec une petite entaille sur laquelle il y a une inscription « Vivas mediu », ça veut dire « Vie pour moi longtemps », donc c'est une inscription amoureuse, probablement importée de la région rhénane. Donc il y a quelqu'un qui a importé cette bague, qui l'a offert à quelqu'un ici. Les maisons romaines sont construites en pierre, etc. Et les toitures sont en tuiles, hein, de très très grosses tuiles. Et parfois, ces tuiles étaient mises à sécher à l'air libre. Et parfois, il y avait des petits animaux qui passaient, ou des feuilles, ou des enfants qui couraient, et on trouve des empreintes de chats, de chevreuils, de bébés, etc. C'est une relation quand même très rapide, très immédiate avec l'époque antique. Et puis après, il y a la découverte, la compréhension de la couche, du truc. Ah ouais, ce mur, finalement, il marche pas avec celui-là, mais avec celui-là. Ah ben oui, mais alors c'est pour ça que ça marche comme ça. Et ça, c'est aussi intéressant et aussi plaisant pour l'archéologue, c'est de comprendre comment ça marche.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve demain pour une nouvelle estivale du local. Toujours à 7h30 et à 12h15. Restez branchés sur notre radio. Je vous souhaite une très belle journée.